Bonjour Lionel.
Bonjour Renou.
Alors, tu es arrivé à Auroville quand?
Le 1er novembre.
Et tu es professionnellement un anthropologiste, c'est ça?
Ben, j'ai une formation de socio-anthropologue. Alors, si la profession, c'est avoir un emploi, je n'ai pas de profession. Mais si la profession, c'est d'avoir des capacités, ben alors oui, ma profession, c'est socio-anthropologue.
Et en tant qu'anthropologue, comment on dit?
Socio-anthropologue ou anthropologue.
Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert à Auroville?
J'ai découvert des choses qui m'intéressent beaucoup, à savoir des façons alternatives de vivre ensemble. Et c'est pour ça que je suis venu à Auroville, en fait. C'était pour découvrir un des endroits du monde où les gens proposent une alternative au vivre ensemble. Donc j'ai parcouru différents milieux comme les Rainbow Gathering, un peu le woofing, un peu des choses sur Internet, un peu dans la politique avec le Parti Pirate. Et j'aime bien les visions alternatives de la société, donc voilà, ça m'a attiré vers Auroville. En même temps que j'avais envie de visiter l'Inde, ou en tout cas découvrir, visiter c'est un grand mot parce que j'ai pas fait le tour de l'Inde et je crois pas que je vais le faire un jour. C'est trop grand.
Oui, c'est grand et puis c'est différent partout.
Ouais,
qu'est-ce que t'as visité en Inde jusqu'à présent?
Pas grand chose en fait. Je suis pas du genre backpacker à changer de place tous les deux jours. Donc j'ai passé 15 jours dans le quartier de Nainar Mandapam à Pondichéry, dans l'appartement d'un ami belge qui loue à l'année. Et après je suis venu à Aspiration Community. Et là j'ai commencé à visiter un peu Auroville, des endroits comme Johnny's Home, la Fertile.
La Fertile, ouais. Ah, super.
C'est là que j'ai commencé d'ailleurs.
Ah bon?
C'est ma première nuit à Auroville, c'était chez lui. Oui.
Ah ok.
Ouais, j'avais perdu mes clés, mon argent, j'avais tout perdu et j'étais au Visitor Center. Et voilà, c'était la première personne qui a accepté de m'héberger.
C'est vrai que t'avais tout perdu?
Bah tout non, pas le passeport, pas tout ça quoi, mais... Ah. J'avais perdu une banane dans laquelle il y avait mon argent, la clé de mon appartement. Mmh. Et comme c'était le soir, à 10h du soir, ben, j'avais pas envie de rentrer en vélo à faire je sais pas combien de kilomètres dans...
Donc heureusement, il y a des gens encore comme ça, il y a des places comme ça à Auroville, donc t'as tout.
Voilà, ça n'a pas été la première personne, mais... Ah. Et en fait, assez curieusement, quand je suis arrivé à Auroville, j'ai rencontré assez vite des gens que j'avais déjà vu sur des reportages. Sur Internet, il y a différents reportages films, quoi. Et donc, voilà.
Et en tant que... mais tout ça, qu'est-ce que tu en dis en tant qu'anthropologiste? Est-ce que... Bon, c'est encore en route, mais quand même, en 40 ans, est-ce que tu vois une espèce de fusion, de changement de culture, d'échange de culture? Qu'est-ce que tu vois?
Ce serait un peu présomptueux de ma part de...
Et en plus, tu connais pas comment c'était 40 ans
voilà,
en arrière,
c'est
donc
ça.
C'est peut-être dur de voir une courbe.
Donc, je pourrais inventer des histoires, ouais. Faire le gars qui fait semblant d'eux, mais...
Bon, très bien. Mieux vaut être honnête.
Mais non, mais il faut... Ouais. Allez, il faut parler de ce qu'on connaît.
Ouais.
Je peux avoir des avis, alors, plus personnels, quoi.
Ouais.
Mais je veux dire un avis de... Plus... comment dire?
Professionnel.
Oui. Même si j'aime pas ce mot-là, mais je veux dire l'avis d'une personne informée. Et, en fait, mes outils d'anthropologue fonctionnent si je reste longtemps sur place, tu vois. Ici, j'ai pas vraiment utilisé ces outils. Ce qu'on pourrait dire dans un travail d'anthropologie ici, c'est que j'ai fait une phase exploratoire. C'est que je vois où je mets les pieds et je pourrais avoir une idée de des bouquins que je pourrais commencer à lire pour approfondir au niveau théorique et comment m'organiser pour le, au niveau du terrain pour rester alors encore plusieurs mois, mais vraiment concentré sur la, la recherche, quoi. Donc je peux donner un avis personnel, ça oui. Moi, je n'ai pas peur de partager mes propres idées en sachant qu'elles m'appartiennent et les gens font ce qu'ils en veulent, je veux dire.
Ben, partage alors.
Donc, ben...
Ton avis non professionnel.
Alors, mon avis non professionnel, c'est que Auroville est une belle alternative. Dans toutes celles que j'ai vues, c'est une des plus abouties, je dirais même, parce qu'elle a justement un certain recul d'une quarantaine d'années. Et qu'elle est permanente, parce qu'il y a des choses qui existent, comme des, je te disais, les Rainbow. Mais ça, c'est un mois, c'est des camps d'un mois, et puis c'est différent d'une chose qui est vraiment permanente, où les gens vivent et...
Ils construisent.
Et, oui, ils sont domiciliés, en fait, où toute la vie, où toute, leur, toute l'année, même si je suis bien conscient que beaucoup d'Auroviliens ne passent pas 100% de leur temps à Auroville, et que... Ça, tu vois, c'est des choses que j'entends. Si je voulais avoir un avis professionnel, je devrais le vérifier d'une façon ou d'une autre.
Bah, si tu viens au mois de mai, tu vas voir.
Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est des choses, bon, si tu veux avoir une opinion plus scientifique, tu ne peux pas parler sur des préjugés.
Même,
des...
Et puis même, de toute façon, partout dans le monde, les gens partent en vacances pendant 2 mois ou 1 mois, je ne sais pas.
Oui, c'est ça, mais enfin, ici, c'est spécifique, puisque... Apparemment, c'est pour une des questions économiques, donc...
C'est économique, c'est familial.
Climatique
c'est,
aussi.
Ouais, plein de gens, il fait trop chaud l'été, et puis c'est difficile, il y a moins de choses à faire ici, parce qu'il fait tellement chaud, les écoles sont fermées, etc. Donc c'est un bon moment de retourner voir sa grand-mère.
Ah oui, c'est ça, etc. Si c'est des vacances annuelles, ça
c'est plus
ça
comme
se comprend.
Ça,
hein. Oui, c'est ça.
C'est tous les 2 mois... Ça dure 2 mois, puis les gens reviennent.
Donc là, c'est tout à fait logique.
Ouais. Enfin, alors, et maintenant, tu as fait un travail ici depuis plusieurs semaines. On te voit à l'ordinateur. Alors, tu vas nous parler un petit peu de ça. On va faire ce programme aussi en anglais, parce que...
Ouais.
Hein?
Okay.
Donc, on va le faire
on
en
le
français.
Fait d'abord en français, ouais. Puis on le fait en anglais.
Ouais. Alors, tu vas nous parler de ce que tu as
Donc,
travaillé dessus.
Pour clôturer la partie, oui. Avant de parler du travail, où là, je pourrais donner des informations plus sourcées. Donc, je me suis investi, oui, dans la radio d'Auroville et aussi dans les écoles parce que je suis assez dans les projets, justement, de créer un monde alternatif. Il y a un projet qui me tient à cœur, c'est les projets de la fondation Wikimedia, dont le plus connu est Wikipédia. Mm. Et donc, voilà, ça, c'est une de mes, comment dire...
Passion.
Oui, je veux dire, c'est une passion. C'est un domaine dans lequel j'ai envie de m'investir et dans lequel je consacre du temps à la fois en éditant, en m'occupant des sites, de l'organisation des communautés qui gèrent les sites. Et alors, depuis plus récemment, je participe à des organisations qui sont hors ligne. Et ici notamment, j'ai fait des ateliers dans les écoles à Kulapalayam pour informer les professeurs et les étudiants sur l'existence de Wikipédia. C'est pas très connu en Inde. Et leur donner en 3 heures d'atelier, leur donner un point de départ pour aller plus loin. Quoi. Mm. Et en même temps, ça me sert pour moi de voir un peu comment ça se passe en Inde. Mm. Et je vais écrire un petit article qui sera destiné aux gens qui organisent Wikipédia et les activités de Wikimedia, la fondation, pour leur parler un peu de la situation de l'Inde et voir comment la fondation peut investir... des personnes ou de l'argent pour améliorer la visibilité de Wikipédia en Inde et l'accès aussi. Il y a un programme qui s'appelle Wikipédia Zéro dont le but est de rendre accessible l'encyclopédie par les personnes les plus défavorisées économiquement. Et l'une des démarches dans le projet, c'est de contacter les fournisseurs de mobile phone pour leur proposer de rendre l'accès gratuit via un téléphone portable, enfin un smartphone. Mm-hmm. Et donc voilà, ça existe déjà ici en Inde avec Aircel, c'est la seule compagnie qui a accepté pour l'instant. Mais bon, oui, c'est pas parfait parce que notamment la publicité pas vraiment faite, les gens connaissent pas Wikipédia, donc ils connaissent pas, ils vont même pas sur le site où ils le vont, ils vont par hasard via Google qui les dirige vers là, mais ils savent pas que c'est quoi exactement Wikipédia. Et en plus, selon mon test à moi, enfin j'ai regardé un peu, j'ai pas pu acheter la carte SIM parce qu'il faut être indien, résident, enfin oui, être local people comme ils disent.
Ah bon?
Ouais, pour Aircel c'est comme ça. Ou alors il faut avoir quelqu'un qui prend, qui donne sa carte d'identité, enfin qui sert, un indien qui sert de référent pour toi. Mm-hmm. Vodafone c'est complètement différent, mais Aircel. Peut-être parce que c'est plus récent, que c'est plus petit, je sais pas, j'ai pas l'explication. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'ai été avec le téléphone portable d'une personne, et donc le site n'indique pas, quand tu vas sur Wikipédia, ça n'indique pas que c'est gratuit. Donc tout ça devrait être amélioré.
Mm-hmm. Et la passion que tu as pour Wikimedia et Pédia, c'est quoi ou juste,
c'est la même passion, les mêmes intérêts que j'ai un peu pour Auroville, c'est-à-dire de penser un monde différemment de là où on va en fait, de là où le mainstream, je vais devoir m'appliquer en anglais, nous dirige et tout le monde reconnaît, je pense, maintenant, ça devient, on est tous au courant des problèmes climatiques, on est tous au courant des inégalités économiques, on est tous au courant de tout, mais...
Comment on s'organise?
Oui, et comment changer? Et on change pas vraiment. Donc moi tout seul je peux pas changer le monde, j'ai pas peu de gens les possibilités de le faire, et donc le truc que je fais moi c'est de montrer peut-être un exemple personnel et rendre un peu plus visible des expériences déjà existantes et des alternatives. Donc si les gens se réveillent un jour pour changer leur attitude et leur façon de concevoir le monde à travers un partage plutôt qu'à travers un système économique où chacun pense à sa propre richesse et à s'enrichir personnellement. J'aurai des informations pour ces gens-là qui veulent changer.
Et tu trouves que pour ça, l'Internet et ces sites-là, justement, le partage de l'information, ça peut apporter un changement peut-être ou,
Ah ben, c'est pas que ça peut, c'est que c'est déjà en cours. Donc, pour prendre le cas de l'Inde, un Indien peut acheter un smartphone, il achète la carte, je crois que c'est 150 roupies, une recharge qui doit être 200 roupies. Et il a accès à une des plus grandes sources d'informations au monde dans sa poche, ce qui est quand même un peu révolutionnaire. Si par chance il connaît l'anglais, parce qu'il peut consulter, il y a aussi un site Wikipédia en tamil ou dans toutes les langues en fait. Il y a 264 langues je crois. Mais si par chance il connaît l'anglais, ce qui est le cas de quand même pas mal d'Indiens, il a accès à un tas d'informations qui lui permet de ne pas se faire marcher sur les pieds, d'être moins idiot, de ne pas croire à tout ce qu'on lui dit, d'être plus conscient, quoi. Plus conscient de la réalité et donc de faire de meilleurs choix.
Finalement, on revient justement sur le mot conscience, parce que finalement, c'est ça, à la fin de la journée.
Ah oui, c'est ça, Oui, la conscience, en fait, c'est un mot qui a plusieurs utilités, on dit polysémique. Donc ça peut être vu d'un point de vue un peu spirituel, mais aussi d'un point de vue peut-être plus intellectuel, de se dire, être conscient de l'existence de quelque chose, c'est connaître son... connaître une réalité, connaître... connaître une existence qui te permet de faire des choix des choix raisonnés, des choix... des choix qui peuvent, baser sur quelque chose de... Comment expliquer ça? C'est difficile, hein?
Comparer.
Oui, tu peux comparer, mais je veux dire, C'est pas. Je sais
qu'à. Tu n'es pas obligé de prendre, de gober tout ce qu'on t'a dit.
Voilà, c'est ça.
Tu peux trier là-dedans et chercher de l'information et t'instruire, quoi.
Voilà.
Et donc, ça veut dire agrandir un peu ta connaissance.
Oui, c'est ça.
Et plus tu agrandis ta connaissance, plus tu as des choix et peut-être aussi plus tu t'ouvres à d'autres possibilités.
Oui. Et alors, il y a même des choses que, si on ne sait pas qu'elles existent, si elles n'existent pas dans ta tête, elles n'existent pas dans ton monde. Donc, tu n'as même pas accès du simple fait que tu ne vas pas faire la démarche pour y aller, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça clairement, mais si tu ne sais pas qu'une recette existe pour faire un médicament, alors qu'elle est sur Internet, et que tu ne sais pas l'existence du lien sur Internet pour aller faire cette recette de médicament, et que tu as la maladie et que tu as besoin de ce médicament, bah, tu vas bêtement mourir alors que...
Ou tu vas aller voir un docteur.
Ou tu vas aller voir un docteur, mais...
Espérant, voilà.
Mais si c'est une recette un peu, tu vois, qui justement n'est pas offerte par un docteur, parce que les docteurs, ils sont dans le mainstream, donc ils vont te proposer des médicaments qui sont issus de l'industrie pharmaceutique. Enfin, ça dépend des docteurs, évidemment. Ici à Auroville, on peut avoir des chances de rencontrer des gens en plus.
Il y a une critique aussi sur Wikipédia, c'est que c'est tellement fait par tout le monde que comment vérifier les informations, etc. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Alors là, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on va s'éloigner du topic.
Bon, on s'en fout.
Mais je peux dire deux choses. Ouais. Donc, entamer la curiosité, c'est d'abord le défaut de Wikipédia et aussi sa force. C'est-à-dire que c'est un lieu démocratique. Tout le monde peut contribuer. Et donc, c'est pas bien parce qu'on peut faire n'importe quoi et il y a des risques. Mais finalement, c'est très bien géré par la communauté. Pour des systèmes que je vais pas expliquer ici, mais il y a des robots, il y a... En fait, pour une page d'encyclopédie, par exemple, il y a 7 pages d'organisation de la communauté. Donc, il y a un énorme travail invisible derrière l'encyclopédie que les gens ne connaissent pas. Mais ça fonctionne. Et donc, l'inconvénient de laisser la porte ouverte à tout le monde pour faire des changements est neutralisé par une activité communautaire de volontaires à l'arrière.
Donc, c'est vraiment une petite nid d'abeilles qui s'organise
d'elle-même.
Ouais. C'est fabuleux.
Ouais. Et donc, cet inconvénient est relativement bien neutralisé, c'est-à-dire qu'une information fausse peut rester entre une minute pour être raisonnable et... Peut-être plusieurs jours, si c'est vraiment un article que personne va visiter, qui est un peu oublié, ou un truc que personne s'intéresse, tu vois. Donc voilà, c'est pas instantané, mais par contre, la mise à jour est instantanée par rapport au papier. Donc si on a une encyclopédie papier, ben, il faut attendre la nouvelle édition, racheter la nouvelle édition pour avoir la mise à jour.
Est-ce que tu penses pour l'anthropologie et Auroville, ça peut être un outil utile?
Ah, il y a plein de choses pour lesquelles on peut s'inspirer au niveau de Wikipédia. Et il y a plein de similarités entre Wikipédia et Auroville. Le mélange des... Devoir s'organiser avec 264 langues, donc cultures, c'est tout un travail. Hein.
Ah oui, et puis dans le quotidien, c'est souvent ça qui fait les frictions, parce que l'humour d'un Coréen, c'est pas le même qu'un l'humour d'un Français. Alors, il y a beaucoup de malentendus sur les tons et les compréhensions aussi, parce que comment les gens traduisent, tout le monde essaie de parler anglais plus ou moins, mais la façon que ça se traduit dans ta tête, c'est très culturel.
Donc, ah oui, c'est clair.
Donc la compréhension de ce que je te dis et ce que tu comprends, c'est pas du
Ça, c'est un défi plus grand pour Auroville parce que sur Wikipédia, les projets sont linguistiques. Donc, chaque Wikipédia a une communauté séparée en fonction de la langue. Mais l'organisation de tous les projets ensemble, la distribution des budgets, les décisions plus qui concernent tous les projets linguistiques, il y a un site qui s'appelle Meta. Donc, au-dessus des sites linguistiques. Et là, c'est l'anglais qui prédomine, comme un peu partout d'ailleurs dans le monde, quand il s'agit d'un truc international.
Ben, en Inde aussi, on utilise l'anglais pour se parler, il y a tellement de langues.
Voilà. Et alors, ce que je ne t'ai pas dit, donc, c'est que l'avantage de Wikipédia, donc l'inconvénient, on en a parlé, mais l'avantage, c'est que ça fait une information très neutre. Parce qu'une information qui est éditée par une personne donne le point de vue d'une personne. Même si ce point de vue peut être lu par un comité éditorial. Mais je veux dire, une publication scientifique sera relue par des scientifiques. Et si, bon, si dans le monde scientifique, on a cette vision des choses, qui est souvent une vision,
empirique.
Oui, mais surtout de spécialistes, donc de gens qui sont plongés dans la matière et qui n'ont pas toujours une vision globale des choses. Ben voilà, donc on aura une vision comme ça, et il y a peut-être des choses très, très, très importantes qui ne sont pas dites, ou des choses qui sont dites et qui sont biaisées par le fait que c'est écrit par un certain milieu. Tandis que Wikipédia, ben, tout le monde contribue, tout le monde peut changer, et tout le monde peut réagir. Donc finalement, ça donne une information très démocratique, très neutre, très...
Donc il doit y avoir des polémiques et des sujets où ça change sans arrêt.
Ah ben non, parce qu'en fait, le principe, c'est que s'il y a plusieurs points de vue, on les donne.
Ok.
Et comme c'est une encyclopédie, on ne donne pas son opinion, on va chercher des sources d'informations dans tout ce qui existe déjà, les livres, les sites officiels, les journaux, enfin tout ce qui est un peu, je veux dire, sérieux au niveau de l'édition déjà. Et à partir de là, ben, on dit, ben, voilà, je ne l'invente pas, je l'ai lu dans un journal, je l'ai lu dans tel livre, je l'ai lu sur tel site gouvernemental, et voilà.
T'as plusieurs points de vue sur un sujet,
oui,
de beaucoup de sources.
Voilà.
Maintenant, on va revenir,
oui,
à, okay, ton travail. Raconte-nous, qu'est-ce que tu as travaillé dessus.
Donc ici, à Auroville, ben, j'ai répondu à une annonce qui demandait quelqu'un pour faire un volontaire pour se lancer dans une recherche sociale. Et puis, l'idée, c'était de faire une recherche sur la communication à Auroville. Mais bon, comme j'étais ici pour un mois et demi, on a fait deux réunions et puis on s'est dit, c'est quand même un gros projet. Moi, je n'aurais de toute façon pas le temps. Il y a déjà eu quelque chose qui avait été fait et on s'est déjà aperçu que, bon, ça a été fait jusqu'au moment où les questions étaient prêtes à être distribuées dans la population.
Ouais.
Puis boum, c'est resté là.
Ouais.
Donc ça demande une organisation de plus conséquente, quoi. Donc il faut vraiment trouver des gens volontaires. C'est pas quelque chose qu'on fait à deux trois comme ça dans son coin. Je pense qu'il faut vraiment une décision de la communauté, de dire bon, on s'y met et on rassemble les gens et on fait un planning mais il faut être nombreux et il faut avoir l'énergie de toute la communauté pour faire ce genre de travail. Ou alors passer par le système traditionnel, c'est-à-dire tu payes des gens pour le faire, mais c'est un travail assez fastidieux, hein. Récolter des informations, les mettre dans un tableau, les traiter statistiquement.
Mais toi, tu as fait un travail de fond, si je comprends bien. Alors, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as regardé comment faire un sampling de notre population.
Voilà. Donc, le point de départ d'une enquête, c'est de... vu que l'enquête, c'est questionner une population... et que c'est difficile de questionner toute la population, ça demande encore plus de travail, et c'est pas forcément nécessaire à partir du moment où on arrive à faire un échantillon représentatif de la population. Donc ici, le minimum, c'est un calcul qui est fait via un site internet qui fait le calcul pour toi, mais le minimum pour avoir des informations qui sont justes à 10% près, ça serait 330 personnes. Au lieu de consulter l'ensemble de la population qui est en décembre 2014. Je pense que c'est 2314 Auroviliens, newcomers et to be newcomers.
Okay.
Et donc voilà, ça simplifie le travail. Et pour voir clair là-dedans, j'ai commencé...
10%, ça serait 230, alors pourquoi 330?
Non, 10% d'erreur, j'ai dit.
Ah. Non, mais si tu dis 2300 personnes à Auroville...
Non, les 10%, en fait, ça veut dire que si tu obtiens un chiffre dans la population qui te dit 70% des gens sont pour d'arrêter la circulation des motos dans Auroville et d'installer des parkings aux extrémités, d'organiser une circulation avec des taxis vélos,
ouais.
J'aurais voté pour, je crois d'ailleurs, ouais. Mais je ne suis pas rovinien.
Ouais,
ah ben, tu dis 70%,
ouais.
Et ben, en fait, les 10% d'erreur, ben, ça peut être 75 ou 65. Donc, tu as une fourchette d'erreur, c'est ça, quoi.
Okay.
Et ce n'est pas 10% de la population, mais c'est 10% de flottement dans le résultat.
Okay.
Donc, si tu as 50% en pile, ben, tu peux te dire... Ben,
donc, 330, ça représente quoi exactement?
Ben je sais pas exactement, donc ça fait 2314 divisé par 330, faut faire le calcul, donc environ 330, ça fait 3, ça ferait 7% de la population, si je ne me trompe pas. 7 fois 330, on doit pas être loin de 2300. 3 fois 330, ben, t'as à peu près 1000. Donc 6 fois 2000 et puis 300 en plus. Donc.
Okay.
Environ 7% de la population. Okay. Mais si on veut être plus précis, on peut questionner plus de personnes, tu vois.
Okay.
Mais là, je veux dire, 10%, c'est ce qui est fait en général. Parce que une enquête, c'est pas une prise de décision. C'est une consultation, tu vois, pour avoir une idée de ce qu'on veut faire. Si on veut faire une prise de décision, c'est un référendum qu'il faut faire. Donc tout le monde donne son avis. Tu vois, c'est différent. Ça, dans un processus décisionnel, je veux dire, c'est la démocratie, c'est le vote. Ou alors c'est les représentants dans la démocratie représentative qui n'est pas vraiment une démocratie, mais plutôt une oligarchie de personnes élues. Là, c'est les élus qui décident pour les autres. Mais ici à Auroville, je trouverais ça dommage. De toute façon, Auroville a un système politique assez proche de la démocratie réelle. Donc, ce serait logique de questionner tout le monde sur des points précis, quoi. Mais pour trouver, par exemple, ces points de questionnement, donc, par exemple, pour savoir ce qui intéresse vraiment la population d'Auroville, on peut faire une enquête. Est-ce que les changements... avant de lancer un référendum, par exemple, bah, il faudrait savoir la question à poser dans le référendum. Et donc, une enquête peut être intéressante dans ce cadre-là pour savoir, tiens, quelles sont les décisions que la communauté a envie de prendre. Et donc là, on peut commencer avec ce genre d'enquête. Et c'est suffisant pour avoir des indications sur bah, cette question. 90% des gens la veulent. Donc, même s'il y a 10% d'erreurs, 80%, ça reste énorme, quoi. Et dans toutes les questions proposées ou quoi, ben on voit que de toute façon, on prendra les premières pour le référendum.
Même si 90% en Auroville disent qu'on voudrait aller dans cette direction-là, ceux qui sont finalement assis à faire le travail doivent avoir la bonne volonté de vouloir suivre ce voie-là. Et si ces gens-là ont une autre idée puisqu'ils sont impliqués directement dans le travail, eh ben...
Ouais, ça c'est le. Écoute, c'est la même chose. Je me suis intéressé à la politique en Belgique et donc quand les petits partis nouveaux arrivent au pouvoir, comme c'était le cas pour les écolos, ils ont perdu aux dernières élections. Ils se retrouvent avec plein de gens dans l'administration qui eux ne sont pas changés. En Amérique, ils changent tout, mais en Belgique non. Et donc ils se retrouvent avec des gens qui ont leurs copains dans les autres partis. Et donc ils disent, c'est galère pour faire changer les choses parce que.
Personne.
On a le pouvoir, mais on a des bâtons dans les roues, on demande de faire un truc, on demande d'avoir des informations, et ça bouge pas.
Oui.
Donc ça, c'est un peu le... Moi, tu me demandais un point de vue personnel, ben, c'est ce que je vois dans Auroville, c'est qu'il y a cette tendance à reproduire ce qui existe déjà et à tomber dans les mêmes pièges qu'autre part. Quoi.
Aussi, c'est très difficile, je pense que... L'énergie qu'il y avait au départ, où c'était vraiment quelque chose de nouveau, et puis il y avait un désert, et puis il y avait tout à créer, c'était un environnement particulier.
Mmh.
Et au bout de plusieurs années d'habituation et plus de confort, etc., on commence à tomber dans les choses plus connues. Et aussi, je pense qu'il y a eu en général une espèce de fatigue du nouveau.
D'accord.
À un moment donné, les gens disent, moi, j'ai plus envie de chercher une nouvelle méthode d'éducation. Tiens, on va prendre ça, ça marche, c'est bon, hop, 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 hop. Et donc, il y a eu plus, que ce soit dans l'administration ou dans l'éducation ou dans autre chose, un envie de dire, bon, maintenant, ça suffit, hein, on va se baser sur quelque chose. Mm-hmm. Donc, c'est très difficile, parce que les gens ont toujours une tendance de vouloir de la stabilité et aussi de se sentir en sécurité par des formats connus. Mm-hmm. Donc, je pense que toute cette énergie un petit peu farfelue du début, au bout de 20-30 ans, un petit, enfin, c'est ce que j'observe, mais bon.
C'était pareil sur Wikipédia, je te dis, il y a des comparaisons. Au départ, le projet Wikipédia était très libre, donc c'était un peu la nouvelle terre où il n'y a pas de règles, on fait ce qu'on veut, quoi. Et puis petit à petit, maintenant, il y a des habitués qui sont là depuis le début, qui ont fait des règles et des machins bazar, et donc quand tu arrives là-bas. C'est pas comme ça, en fait c'est libre, mais bon, il y a plein de choses à respecter, et puis il y a des habitudes, voilà, et puis c'est des règles qui sont écrites, donc il faut les changer, mais en fait c'est plus facile d'écrire une règle que de la changer, et ça c'est le problème, tu vois, c'est le problème de tout, donc s'il y a des erreurs qui sont faites, allez, on va prendre l'exemple de permettre l'accès aux véhicules à moteur dans la zone dans la ville d'Auroville, alors que beaucoup de pays du monde essayent de faire marche arrière. Mais le problème, c'est que c'est très facile de dire allez, on y va. Mais après, l'habitude est installée, donc c'est extrêmement difficile de changer les habitudes.
Et c'est là où on en est maintenant, parce que je pense que beaucoup de gens ne sont pas trop satisfaits avec comment ça va, mais l'énergie qu'il faut pour sortir de là est énorme, parce que y a un train maintenant, il y a les rails, et puis ça roule comme ça, même si c'est bancal, c'est pas bien, c'est pas parfait, on va y aller, quoi. Mmh. Donc, et puis, plus en plus, tu sais, on avait des espèces de trucs que jamais, d'abord, seulement les gens impliqués à Auroville devraient vivre à Auroville. Avant, peut-être, on serait allé à 40, virer quelqu'un, etc. Mmh. Maintenant, ça se fait plus trop. Tout le monde va être civilisé, c'est fini. On a laissé ces manières en arrière. Mais du coup, plus de choses passent. Ah, jamais on va accepter de l'argent en Auroville, tout le monde doit avoir un compte et tout. C'est pour le convenience et gnagnagna. Donc on laisse tomber dans toutes nos éthiques qu'on avait, qui en fait donnaient un petit peu une fierté ou une séparation de projet, commence à disparaître et on commence à se vraiment faufiler dans le paysage, quoi, avec moins en moins de différences de but ou de direction ou de éthique ou de, et plus il y a d'Eurovilliens qui rentrent maintenant quand c'est un peu confus comme ça, plus ça devient, on dirait, confus. Donc on va voir où ça tout s'amène.
Et alors, il y a aussi des gens avec des bonnes intentions qui viennent et qui ne restent pas, parce que justement, ça ne correspond pas à leur idéal. On m'a demandé un jour si je voulais devenir Eurovilien. Et j'ai dit non, je ne pourrais pas devenir membre d'une communauté qui ne correspond pas à mes idéaux. Par contre, je serais prêt à m'investir dans Eurovil, comme je l'ai fait ici d'ailleurs. Je serais prêt à revenir, à contribuer pour l'amélioration de tout, mais voilà. Personnellement, je suis, comment dire,
c'est difficile.
Je préfère rester indépendant que de m'associer à quelque chose qui ne me correspond pas. J'étais au Parti Pirate, j'ai quitté le Parti Pirate à un moment où ça ne pouvait plus coller avec mon éthique et ma vision des choses.
Je crois que c'est un peu la crise pour beaucoup de gens ici en ce moment, parce que c'est un petit peu justement difficile d'accepter. Merci pour votre
accueil aussi, parce que c'était sympa de passer du temps ici.